Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. À l'approche du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 perpétrés aux États-Unis, faisant notamment s'effondrer les tours du World Trade Center à New York, deux chercheurs de l'Institut français des relations internationales dressent le bilan de la guerre globale contre le terrorisme qui a suivi. Une guerre qui se poursuit sans véritable issue en vue. Al-Qaïda a fait preuve de beaucoup de résilience et de nouveaux groupes comme l'État islamique sont apparus. La chute du califat proclamé par Daesh n'a pas signé la fin de cette organisation ni de son idéologie mortifère. Le monde compterait 2 à 3 fois plus de combattants djihadistes aujourd'hui qu'au début du siècle. Quel usage a-t-il été fait de ces 20 ans ? Comment expliquer qu'en dépit des centaines de milliers de vies perdues et des sommes considérables dépensées, la menace soit encore si élevée ? Elie Tenenbaum et Marc Ecker sont nos invités. Leur ouvrage « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » vient de paraître chez Robert Laffont. Elie Tenenbaum, vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI. Bonjour.
Bonjour Marie-France Chatin.
Marc Ecker, vous êtes directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, également rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, Elie Tenenbaum et Marc Ecker, des spécialistes des questions de défense et de terrorisme. Vous nous proposez une rétrospective de 2 décennies de lutte contre le terrorisme, en particulier sur les théâtres étrangers. En quoi le 11 septembre 2001 a-t-il changé la face du monde et la lutte contre le terrorisme? Et dans quelle mesure l'antiterrorisme global a-t-il changé les alliances? Marc Ecker.
Voilà, je crois que le point le plus frappant au moment du 11 septembre, c'est ce choc. La perception du terrorisme change. C'est-à-dire que jusqu'alors, le terrorisme faisait relativement peu de morts. Et là, tout à coup, on a un attentat qui fait des milliers de morts. C'est un changement quantitatif, mais c'est aussi un changement qualitatif, parce qu'on s'imagine que le terrorisme peut devenir une menace existentielle. Et il n'était pas perçu comme ça avant. À l'époque de la guerre froide, il y avait des menaces bien plus importantes, menaces d'affrontement entre les deux blocs, et le terrorisme était, au point de vue stratégique, une nuisance stratégique, mais ce n'était pas une menace existentielle. Là, on a un changement, et puis on a une réaction qui est à la hauteur du choc, de la stupéfaction, à la hauteur de cette surprise stratégique. Le 11 septembre 2001 est perçu immédiatement aux États-Unis comme un nouveau Pearl Harbor. Le président George W. Bush de l'époque l'écrit lui-même dans son journal. On était en 2001 au moment de l'anniversaire, du 60e anniversaire de l'attaque de Pearl Harbor. Il y avait un blockbuster qui avait eu un certain succès aux États-Unis. Cette période était vraiment dans les esprits. Et là, immédiatement, le 11 septembre 2001 est perçu comme le Pearl Harbor du 21e siècle. La réaction à Pearl Harbor était l'entrée en guerre des États-Unis. Et là, on a également une déclaration de guerre avec George W. Bush qui adopte dans les jours qui suivent les attentats du 11 septembre 2001 la rhétorique de la guerre globale contre le terrorisme. Et comme Elie va l'expliquer, ce n'est pas qu'une rhétorique.
Elie Tenenbaum.
Oui, je pense qu'effectivement le mot important ici est lâché, c'est celui de guerre. C'est-à-dire que le terrorisme était perçu comme une menace sécuritaire. Et puis tout à coup, avec le 11 septembre, on voit une attaque qui ressemble, et le mot est donné à cette époque-là, comme des actes de guerre. On ne pensait pas qu'un attentat terroriste pouvait produire ce type de dégâts. On ne pensait que des guerres pouvaient produire ce type de dégâts. C'est-à-dire que concrètement, ils ont transformé des avions de ligne en missiles de croisière, détruire des immeubles, et pas n'importe quels immeubles, une partie du Pentagone. Et donc, la perception de la menace sous l'angle militaire est finalement prise en compte dès le soir même des attentats. Et effectivement, la présidence américaine de George W. Bush va immédiatement aller au Congrès pour demander une autorisation pour l'utilisation de la force, AUMF dans son acronyme anglophone qui est toujours en vigueur aujourd'hui. L'administration Biden a évoqué plusieurs reprises depuis sa prise de fonction l'idée de transformer cette autorisation pour l'emploi de la force qui finalement donne un blanc-seing au pouvoir exécutif américain pour employer la force. Et ça va se traduire très rapidement, très concrètement, par des opérations de guerre en Afghanistan d'abord et puis sur un certain nombre d'autres théâtres par la suite. Et c'est pour ça que on a décidé d'appeler cet ouvrage La guerre de 20 ans, parce que précisément, ça ne veut pas dire que le terrorisme et le contre-terrorisme n'existaient pas avant le 11 septembre, ça veut dire qu'à partir du 11 septembre, on décide de l'appliquer à travers les lentilles du champ de la guerre. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui serait peut-être on dit bien peut-être, en train de se clore aujourd'hui.
Alors, j'allais vous poser la question, effectivement, guerre de 20 ans, vous lui donnez une fin finalement à cette guerre, on l'abordera peut-être un petit peu plus loin dans l'émission, mais elle n'est pas totalement finie, il y a une sorte de diminution. En tout cas, et ce que vous soulignez dans l'ouvrage, ça a été dit, mais vous revenez dessus, Marc Ecker, puisque, en tout cas, ça a été tonitruant, ça a été traumatisant, ce qui s'est passé le 11 septembre, il y avait eu des signes avant-coureurs.
Il y avait eu des signes avant-coureurs, effectivement, mais personne n'attendait un attentat de cette ampleur. On cite d'ailleurs dans l'ouvrage quelques éléments de renseignement qui remontaient jusqu'à la Maison-Blanche. On cite notamment le nombre de fois que le nom de Ben Laden et d'Al-Qaïda était évoqué dans les President Daily Brief qui étaient donnés à George W. Bush. Et ce groupe, Al-Qaïda, était sur les écrans radars. Mais personne n'attendait un attentat de cette ampleur sur le sol américain. Ce qui était plutôt attendu, c'était un attentat à l'étranger contre les intérêts des États-Unis, comme il y en avait déjà eu par le passé, notamment les attentats contre des ambassades américaines en Afrique. Ce qu'on dit, c'est donc qu'il y a eu une surprise stratégique, mais aussi l'ouverture d'un cycle stratégique. À partir de 2001, toute la politique étrangère américaine, et dans une large mesure des alliés aussi des États-Unis, s'oriente vers cette lutte contre le terrorisme. Ce n'était pas le cas avant. Et notre thèse dans l'ouvrage, c'est de dire qu'on arrive aujourd'hui à la fin de ce cycle. Donc évidemment, la menace n'a pas disparu. Évidemment, la lutte contre le terrorisme va se poursuivre. Mais il y a une volonté très claire des États-Unis de se tourner vers d'autres enjeux, en particulier la montée en puissance de la Chine, mais aussi d'autres enjeux moins sécuritaires, comme les aspects sanitaires et les conséquences économiques de la crise du Covid, ou comme la transition énergétique liée au changement climatique. Vous avez évoqué lors d'une récente émission le cas de la guerre en Afghanistan. Ce symbole qui a été annoncé en avril par le président Biden de retirer les troupes américaines avant le 11 septembre 2021, 20 ans jour pour jour après les attentats du 11 septembre 2001, montre bien cette volonté de clore le chapitre non seulement de la guerre en Afghanistan, mais plus largement de la guerre globale contre le terrorisme.
Alors on reviendra bien sûr sur la question afghane. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que, Elie Tenenbaum, il y a eu surréaction américaine à la menace ?
D'abord, la question de la surréaction est très importante parce que de tout temps, le terrorisme est un mode d'action qui vise à provoquer une surréaction de la part de l'adversaire, de manière finalement à rééquilibrer les choses en jetant dans les bras du camp du terroriste un certain nombre d'acteurs qui n'y auraient pas été avant. Et ça, c'est des dynamiques qu'on a pu voir dans d'autres conflits qui n'étaient pas forcément liés au djihadisme. Regardez la guerre d'Algérie, l'Irlande du Nord, enfin tout un tas de conflits où le terrorisme a été employé à cette fin-là. Et donc, c'était effectivement pensé comme tel, et on essaye d'insister dans l'ouvrage sur la pensée stratégique qui est celle des terroristes et en l'occurrence des djihadistes, qu'il avait identifié comme ça. La réaction, dans un premier temps, du côté des Américains, a été à l'image ou à la hauteur de la provocation, c'est-à-dire effectivement très vigoureuse, assez globale, avec une action très vive en Afghanistan, une traque globale des réseaux d'Al-Qaïda, avec un certain nombre de libertés que les services de renseignement, les forces spéciales américaines se sont dotées autour du droit de la guerre, autour du statut des prisonniers de guerre. On se souvient de Guantanamo, on se souvient évidemment des sites clandestins de la CIA, qui ont été, on va dire, à la limite de la surréaction, des fois au-delà, en décrédibilisant une partie de la réponse. Mais j'ai envie de dire, si ça s'était limité à cela, on était encore dans un degré de ceci pour cela ou de donnant. La grande erreur et la grande surréaction, elle a eu lieu en 2003, on l'identifie bien dans l'ouvrage et d'une certaine manière c'est assez connu. C'est le moment où les États-Unis ont fait sortir la guerre contre le terrorisme de son lit originel pour l'étendre à finalement une volonté un petit peu démiurgique de remodeler le Moyen-Orient en éliminant tout un tas de régimes qui n'étaient pas directement liés à la menace terroriste, mais qu'ils estimaient de près ou de loin comme participant d'un contexte géopolitique ou d'un paysage qui pouvait favoriser indirectement le terrorisme, en éliminant le régime de Saddam Hussein en Irak. Et de ce point de vue-là, finalement, les États-Unis ont retourné une grande partie de l'opinion publique internationale, et particulièrement dans le monde musulman et arabo-musulman. Et donc, de ce point de vue-là, on provoquait de manière assez tragique un appel d'air avec l'arrivée de nouveaux militants qui étaient désireux de combattre les États-Unis. Et donc l'Irak, qui n'était pas un sanctuaire des djihadistes avant la chute de Saddam Hussein, l'est devenu dans les années 2003, 2005, 2006, avec notamment l'émergence d'Al-Qaïda en Irak qui allait devenir l'État islamique. Et d'une certaine manière, cette surréaction américaine a provoqué ou a relancé, remis en selle un adversaire qui avait été affaibli en fait dans les années 2001-2002, juste après le 11 septembre et l'invasion de l'Afghanistan et la dispersion des réseaux d'Al-Qaïda.
Alors, plusieurs questions par rapport à cela. Donc, c'est l'Irak, Elie Tenenbaum vient de nous l'expliquer, qui a fait basculer la riposte américaine dans la démesure. Est-ce que cela a discrédité l'Amérique ? En tout cas, la question de l'image de l'Amérique revient souvent dans l'ouvrage Marc Ecker. Et est-ce qu'on peut dire finalement que le contre-terrorisme a davantage nourri le djihadisme qu'il ne l'a combattu ?
Alors, première chose, l'image de l'Amérique est effectivement très importante. Et les États-Unis, les dirigeants américains s'en rendent compte et mettent en œuvre tout un tas d'actions pour essayer non seulement d'améliorer cette image, mais d'aller même plus loin en se disant que dans le fond, tout ça est une guerre des idées et qu'il faut lutter contre l'idéologie salafo-djihadiste en opposant un modèle qui est un modèle de démocratie libérale. En pratique, ça ne fonctionne pas très bien, mais ce n'est pas non plus un échec absolu. On donne un certain nombre d'exemples de sondages dans le livre qui montrent notamment que la popularité, certes, des États-Unis à un moment donné a chuté de manière drastique, mais en parallèle et sur le long cours, la popularité des groupes salafo-djihadistes s'est aussi érodée. Et il y a des sondages notamment qui ont été faits par le Pew Research Center sur la popularité de Ben Laden dans différents pays musulmans, et on voit que cette popularité a tendance à s'éroder, même si elle n'est jamais nulle. Il y a toujours un résidu de sympathisants potentiels gênants d'un point de vue stratégique. Mais on voit en tout cas que Ben Laden et son successeur du côté de Daesh, si on peut présenter les choses ainsi, Aboubakar al-Baghdadi, ne sont sûrement pas devenus les héros du monde musulman. Donc ça, c'est sur le premier point. Le deuxième point, est-ce que le contre-terrorisme crée ou engendre le terrorisme ? C'est un débat qui est très vif en France. Il y a eu plusieurs éditoriaux opposés dans des hebdomadaires à ce sujet-là. Nous, on prend position en disant non, le contre-terrorisme n'engendre pas le terrorisme. Il y a bien une idéologie qui est présente auparavant, l'idéologie salafo-djihadiste qui est très puissante. Ceci étant, ce qu'on ajoute immédiatement derrière, c'est qu'on est dans une logique stratégique. C'est-à-dire que quand des coups sont donnés, l'adversaire rend les coups. Et donc, il n'est absolument pas surprenant que lorsque des interventions militaires ont lieu dans un pays notamment du monde musulman, il y a une réaction à cela et que davantage de personnes puissent se mobiliser, choquées par notamment ce qu'on appelle pudiquement les dommages collatéraux ou par les excès de la guerre. Donc cette dynamique stratégique, elle est au cœur de l'ouvrage. Et je pense que c'est une originalité de ce livre qu'il faut mettre en avant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a deux champs de spécialistes qui ont écrit sur ce sujet. D'un côté, le champ des spécialistes du djihadisme, souvent arabophones, qui connaissent parfaitement les méandres de ces mouvances djihadistes, et de l'autre côté, les spécialistes des questions stratégiques, des questions militaires. Et là, on a justement voulu faire dialoguer ces deux champs pour montrer qu'on est dans une logique stratégique et que ces deux champs, ces deux adversaires se rendent coupables pour coup, avec des dynamiques possibles d'escalade, mais aussi de désescalade.
Je pense juste, c'est un sujet effectivement très important, et très rapidement, le contre-terrorisme en tant que tel ne nourrit pas le terrorisme. Il n'y a aucune fatalité à cela. En revanche, et on l'identifie ponctuellement dans des cas d'espèce, voilà, une stratégie contre-terroriste mal menée, mal conduite, surréagissante, contre-productive, peut ponctuellement susciter en tout cas un élan de sympathie. Et ça a pu être le cas, on l'a cité, l'Irak de 2003, pas forcément l'Irak de 2006 ou 2007, par exemple, où les Américains ont changé d'attitude et de stratégie. Ça peut être le cas dans certaines zones, en Afrique, au Sahel, au Mozambique, où quand on regarde un petit peu dans le détail, il peut y avoir des moments, des erreurs majeures de la part des contre-terroristes où effectivement ils ont pu produire davantage de terroristes qui n'en ont éliminé. Mais c'est pas quelque chose de systématique et il faut regarder dans le détail. On peut pas balayer du revers de la main et surtout ne pas ôter aux terroristes ce que les anglo-saxons appellent l'agency, c'est-à-dire leur capacité. Voilà, ils ont un projet et finalement, voilà, en dehors même de leur réaction et de cette logique stratégique, ils cherchent à frapper un adversaire. Et donc, de ce point de vue-là, le contre-terroriste n'est pas à l'origine. Et quand on fait une chronologie fine des événements, il y a très rarement à l'origine de la dynamique.
Alors vous nous y invitez, on va regarder dans le détail, on va peut-être commencer par l'Afghanistan, qu'on a déjà plusieurs fois évoqué pour rappeler que les guerres du 11 septembre ont débuté donc en Afghanistan. Les Américains s'en retirent aujourd'hui, quel bilan peut-on faire? Est-ce que la violence va persister? En tout cas, le pays est à un tournant de ces guerres sans fin. Quel avenir pour l'Afghanistan? À quand une victoire éventuelle des talibans?
Vous avez récemment consacré une émission entière, donc la résumer en quelques mots n'est pas simple. J'aimerais rebondir peut-être sur un point précis. Il est clair aujourd'hui que les talibans sont en position de force et que pour eux, c'est un succès. Maintenant, ce qui m'a le plus surpris, et je pense qu'il est le plus sujet à débat par rapport à ce qui a été dit dans votre émission précédente, c'était la question du lien avec Al-Qaïda. Puisque, à mon avis, ce lien existe, mais il est peut-être plus ténu que ce qui a pu être dit dans l'émission précédente. Mmh. Et à mon avis, un point important, c'est dans quelle mesure les talibans ont retenu les leçons du contre-terrorisme des deux dernières décennies. Ils savent quand même que s'ils hébergent ouvertement des terroristes d'Al-Qaïda et si des attentats sont commis après avoir été préparés sur le sol afghan, ils s'exposent à une réaction cataclysmique potentiellement. Alors est-ce qu'ils vont prendre ce risque? Je n'en suis pas sûr. Un des points, c'est est-ce qu'ils peuvent héberger de manière suffisamment discrète pour que ça ne soit pas remarqué par la communauté internationale, en particulier après un retrait des troupes, le renseignement serait moins précis, moins fin et ne permettrait pas de détecter une présence de centaines d'individus, puisque c'est ce qui était évoqué dans l'émission. Moi, je suis plus dubitatif là-dessus, donc je reste très prudent, évidemment. Les talibans se sont engagés, a priori, à ne pas héberger de groupes de portée internationale. Il faut évidemment mettre en place des mécanismes de vérification, mais je pense aussi qu'on ne peut pas se dire qu'on est exactement dans la même logique qu'il y a 20 ans et qu'une relation extrêmement forte et presque consubstantielle existe entre les talibans et Al-Qaïda.
Les talibans, dont on peut rappeler tout de même aussi qu'ils n'auraient pas la force qu'ils ont sans l'appui du Pakistan et les Tenenbaum.
Absolument, et d'ailleurs les talibans ont joué un jeu particulièrement subtil dans leurs alliances internationales, avec une dépendance totale vis-à-vis du Pakistan initialement, et une émancipation aussi sur ces dernières années, avec leur capacité à nouer de nouvelles relations avec la Russie, avec l'Iran, d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément bien au contraire des partenaires. Mais effectivement, le point de départ de la guerre d'Afghanistan de 2001, sachant qu'en fait, elle s'inscrit dans une guerre de 40 ans, 50 ans bientôt pour l'Afghanistan, en fait, c'était une équation qui avait été mise en place entre Al-Qaïda et les talibans. George W. Bush disait, voilà, on ne fait pas de différence entre les auteurs de l'attentat du 11 septembre et ceux qui les ont hébergés. L'accord de Doha de 2020, lui, postule le contraire, qu'on peut distinguer les deux. Finalement, la guerre contre Al-Qaïda, elle avait été gagnée en 2001-2002, avec l'expulsion des réseaux d'Al-Qaïda. En revanche, la guerre contre les talibans et celle qui lui est consubstantielle, c'était une guerre pour la construction d'un État afghan autonome, alternatif, capable de se tenir lui-même sur ses deux jambes. Celle-là, elle a été perdue. Et je pense que tout le monde est d'accord pour dire on n'a pas réussi, et la communauté internationale dans son ensemble n'est pas parvenue à faire émerger cet État afghan. La question, c'est de savoir est-ce que ces deux guerres, on peut aujourd'hui les séparer et reconnaître la défaite de la guerre contre les talibans et pour la construction d'un État afghan alternatif et maintenir une forme de succès ou un succès temporaire, on va dire, sur la guerre contre Al-Qaïda. Et c'est ça qui va se jouer dans les mois, années à venir. La crédibilité internationale à maintenir la pression sur Al-Qaïda tout en finalement acceptant la dynamique locale qui serait portée par celle des talibans en faisant en sorte que, effectivement, comme le disait Marc, les talibans se souviennent du prix qu'ils ont eu à payer pour l'alliance qui était la leur avant 2001. Il y a toujours eu des dissensions, des débats au sein de la mouvance des talibans, on le sait, par différents canaux. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en tête de file, le Mullah Akhundzada notamment, en sachant que son numéro 2 c'est Sirajuddin Haqqani, qui est lui-même suspecté de fortes connexions internationales. Donc il y a cette espèce de cohabitation au sein de la mouvance talibane qui fait que rien n'est écrit encore sur ce lien, mais en tout cas, il y a probablement un coup à jouer, et ni dans un sens ni dans un autre, on ne peut savoir forcément ce qui va se passer. Ça va dépendre des positions de chacun.
Géopolitique, on vous retrouve, Elie Tenenbaum et Marc Ecker, après le journal, à tout de suite.
Religion du monde.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Elie Tenenbaum et Marc Ecker sont nos invités. Leur ouvrage « La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle » vient de paraître chez Robert Laffont. Marc Ecker, comment s'inscrivent les printemps arabes qui ont démarré en 2011, donc 10 ans après les attentats du 11 septembre aux États-Unis? Quels ont été leurs rôles dans la guerre contre le terrorisme? Quelles conséquences ont-ils eu? Ils ont été vus un temps comme pouvant signer la mort politique d'Al-Qaïda. Ça a été le cas?
Alors, les printemps arabes interviennent à un moment où la mouvance Al-Qaïda est en voie de décrue. Oussama Ben Laden est tué en 2011 également. Mais même avant la mort d'Oussama Ben Laden, un certain nombre de spécialistes avaient écrit sur le déclin d'Al-Qaïda. Ce que montrent les printemps arabes, c'est que cette mouvance djihadiste est non seulement capable de déclencher des surprises stratégiques, comme ça a été le cas le 11 septembre 2001, mais elle est aussi capable de profiter de surprises stratégiques qu'elle-même n'a pas déclenchées. Et ça, c'est le cas des révoltes arabes de 2011. La mouvance djihadiste, initialement, n'a pas véritablement de rôle à jouer, à quelques exceptions près, notamment en Libye où un certain nombre de djihadistes font leur apparition. Mais globalement, c'est quand même plutôt des révoltes populaires qui déstabilisent considérablement les régimes en place. Ce qui fait que les pays occidentaux hésitent dans leur attitude. Ils veulent évidemment être dans le sens du vent de l'histoire en soutenant une potentielle vague de démocratisation populaire dans le monde arabe. Mais en même temps, il y a une certaine méfiance parce que les régimes autoritaires qui étaient en place dans ces pays étaient des alliés dans la lutte contre le djihadisme. Un certain nombre de spécialistes du terrorisme d'emblée mettent en garde à cette époque-là en disant « attention, il y a beaucoup d'optimisme, mais les régimes vont être déstabilisés et les djihadistes pourraient profiter de la situation ». C'est ce qui s'est passé effectivement dans certains pays. Alors là, il faut regarder dans le détail parce que ça ne s'est pas fait de la même manière dans tous les États concernés. La Tunisie est souvent présentée comme la success story du printemps arabe. Dans ce pays, il y a une attitude très intéressante de la mouvance salafo-djihadiste locale qui a essayé de s'insérer plus ou moins dans le jeu politico-social en misant beaucoup sur la prédication, sur des actions sociales pour étendre son influence auprès de la population. Et ce n'est que quand cette mouvance a été interdite après avoir fait de l'agit-prop un peu musclé qu'elle a basculé dans la violence. Dans d'autres États, les révoltes arabes ont évolué vers une véritable guerre civile. Ça a été le cas en Syrie, évidemment, ça a été le cas en Libye. Et là, la mouvance djihadiste est rapidement devenue un acteur majeur de ces guerres civiles.
Alors, puisque vous parlez de la Libye et de la Syrie, on parlera aussi de l'Irak pour savoir où on en est aujourd'hui. Pour la Libye, les Occidentaux sont généralement accusés d'être responsables du chaos libyen. Et quant à la Syrie, c'est de ne pas être intervenu suffisamment en Syrie qui a généré la situation que le pays connaît aujourd'hui. Elie Tenenbaum.
Effectivement, je pense qu'il y a souvent une vision un petit peu post-coloniale de ces questions-là qui ôte en fait une partie de la responsabilité des acteurs locaux. Et c'est important de le responsabiliser. On parlait tout à l'heure du fait que le contre-terrorisme pouvait, dans certains cas, nourrir le terrorisme. Et je pense qu'il y a eu une dimension de cet ordre-là au niveau local en 2011. Comme Marc l'a dit, on avait un certain nombre de régimes autoritaires dans le monde arabe qui vivaient d'une forme de rente sécuritaire dans leurs relations avec les pays occidentaux au titre de leur coopération plus ou moins active dans la lutte contre le terrorisme. Et quand il y a eu ces soulèvements, finalement, ce sont les régimes eux-mêmes qui ont été les premiers à mettre en garde contre une éventuelle menace terroriste, djihadiste au sein des insurgés, menace qui n'était pas actée initialement. Et pour lui donner une substance, ils ont été jusqu'à jouer les pompiers pyromanes pour se renforcer leur légitimité en tant que rempart contre le terrorisme, allant jusqu'à ouvrir les prisons et laisser sortir un certain nombre de djihadistes. Ça a été le cas de Kadhafi dès 2011, de Bachar al-Assad également fin 2011, avec un certain nombre de cadres qu'on a pu voir qui ont effectivement été rejoindre les différentes rébellions et ont fini par transformer le visage de ces printemps arabes qu'on avait vus initialement comme des foules pacifiques demandant respect, justice, dignité, etc., pour finalement évoluer vers une action armée, en partie radicalisée, avec un visage très différent qui inquiétait beaucoup plus et qui donc ont poussé, dans le cas de la Syrie, c'est très net, une éventuelle velléité d'intervention occidentale à hésiter, à se dire mais en fait si on soutient la rébellion, finalement est-ce que ça, on va pas redonner des armes à d'autres adversaires qui sont sont les djihadistes. Et de ce point de vue-là, ce cynisme a fonctionné. Et dans le cas syrien, c'est évidemment très fort. Donc c'est facile a posteriori de dire il fallait pas intervenir en Libye, il aurait fallu intervenir en Syrie. Au moment donné dans le brouillard de la guerre, et on essaye de reproduire ça aussi avec cette mise en récit dans l'ouvrage, on montre bien les hésitations. Il n'y a pas eu forcément une naïveté énorme sur la Libye, comme certains l'ont dit, ou au contraire un cynisme absolu des Occidentaux en Syrie. Ils ont pesé le pour et le contre, les différents éléments en fonction des forces en présence, sachant que les choses avaient évolué entre-temps. Et alors, donc, ce n'était pas forcément des décisions faciles à prendre.
Alors, qui dit guerre dit nécessité d'essayer de comprendre s'il y a un vainqueur, un perdant. Je vous pose la question, Marc Ecker. Alors, sur l'Irak, on a vu l'État islamique finalement se retirer pour ensuite, peut-être, et on va le voir avec vous, sorte de transfert des actions terroristes aujourd'hui sur l'Afrique. Donc, un perdant, un gagnant déjà pour commencer.
On essaye de répondre à cette question dans la conclusion de l'ouvrage. On revient à des questions simple. Mmh. Est-ce que c'est une guerre sans fin? Est-ce que si c'est une guerre qui est amenée à se terminer, il y a un vainqueur ou pas? Quel est le coût? Qui est responsable? Etc. La question du vainqueur dans des conflits asymétriques n'est jamais simple. Mmh. Donc on essaye déjà de le montrer là encore qu'on est dans le brouillard de la guerre et dans une certaine mesure dans le brouillard de la fin de guerre ou de la demi-paix. Quand ces conflits se terminent, encore une fois, il n'est pas facile forcément de dire précisément quand est-ce qu'ils vont se terminer. Pour répondre à cette question, on revient aux objectifs stratégiques initiaux des belligérants. Et ce qu'on montre, c'est que les objectifs stratégiques initiaux des Américains étaient démesurés et n'ont pas été atteints. Puisque George W. Bush dit dès 2001 que ce n'est pas uniquement Al-Qaïda qui est dans le viseur, mais c'est tous les groupes terroristes de portée globale. Voilà l'expression précise. Ce qui est très flou. Et quand on a des objectifs flous au départ, il n'est pas simple du coup de mettre de la clarté après plusieurs années. Et on a cette expression dans le livre en disant, dans le fond, 20 ans après, on se demande toujours précisément qui est l'ennemi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet objectif d'élimination, d'éradication des groupes terroristes de portée globale n'a pas été atteint. Même Al-Qaïda est toujours présent. S'est montrée résiliente avec sa stratégie de décentralisation. Et Daesh, qui a perdu son sanctuaire syro-irakien, est aussi encore présent en mode guérilla et essaye de maintenir sa présence dans différentes provinces, entre guillemets, du califat au niveau plus global. Mais du côté des djihadistes, les objectifs stratégiques n'ont pas été atteints non plus. Al-Qaïda disait clairement que l'objectif, c'était de chasser les juifs et les croisés du monde musulman, de renverser les régimes apostats. Ils n'y sont pas parvenus. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est entre guillemets un match nul? On ne présente pas les choses comme ça et ce serait très léger de dire les choses ainsi. Ce qu'on montre, c'est que du côté d'Al-Qaïda et de Daesh et plus largement de la mouvance djihadiste, ces acteurs sont aujourd'hui extrêmement contraints. Ils ont vraiment l'épée de Damoclès du contre-terrorisme global qui pèse sur leur tête et leur action est contrainte. C'est-à-dire qu'ils vont rester une menace, mais ils ne devraient plus être considérés aujourd'hui comme une menace existentielle. Du côté des États occidentaux, l'échec, c'est de ne pas avoir réussi à éradiquer ces mouvances et l'objectif d'éradication ne semble pas atteignable. Donc en fait, il faut avoir aujourd'hui des objectifs plus réalistes qui sont des objectifs d'endiguement de cette menace-là et il faut aussi la remettre à sa juste place. C'est-à-dire que oui, il va continuer à y avoir des attentats. On en a régulièrement en France. À chaque fois, c'est tragique. Mais au niveau de la menace qu'on constate, ça ne devrait pas être perçu comme une menace existentielle.
Alors, beaucoup de choses par rapport à ce qui a été dit. Le match se poursuit finalement et est-ce qu'il ne se transfère pas en Afrique? On l'a compris, la lutte contre Daesh a été reléguée au second plan au Moyen-Orient au profit finalement d'une stratégie là aussi d'endiguement de la puissance iranienne. Il y a eu échec des Occidentaux à pacifier durablement le grand Moyen-Orient. Elie Tenenbaum, est-ce que l'Afrique est une terre d'avenir du djihadisme?
Alors déjà, l'Afrique est une terre sans doute d'avenir, mais aussi du passé du djihadisme. Et c'est-à-dire que ça fait longtemps, et on essaye là aussi de le rappeler dans l'ouvrage, en Afrique du Nord, on s'en souvient bien, mais même dans d'autres zones comme la Somalie, où en fait on a une implantation très très ancienne des djihadistes. Ben Laden lui-même a vécu au Soudan à l'époque de la création d'Al-Qaïda dans les années 90. Et donc en fait, on a des réseaux qui sont anciens dans tous les pays pays dont on parle aujourd'hui, que ce soit le Sahel, la Somalie, peut-être un petit peu plus récent pour le Mozambique ou la République démocratique du Congo, mais il n'empêche que ce sont de vieilles connexions. Ensuite, il faut bien comprendre que la mouvance djihadiste internationale s'est décentralisée, comme l'a dit Marc, dès le lendemain du 11 septembre. Ça a été un mode de survie, justement, et donc de création de filiales locales, finalement assez autonomes, qui avaient une grande dose d'autonomie dans leurs actions, et ensuite qui, de ce point de vue-là, un petit peu comme n'importe quel groupe criminel, a une logique d'opportunité et d'opportunisme, c'est-à-dire qu'ils vont là où la pression sécuritaire est la moindre, et dans le cas du Sahel, par exemple, ça a été très net, en fait, on avait des groupes qui étaient en Algérie, qui étaient sous forte pression des services et de l'armée algérienne, qui se sont déplacés vers le sud, vers des états et des confins d'états qui contrôlaient mal leur territoire, le nord du Mali, le nord du Niger, ce type de zone qui par ailleurs était souffrait de tout un tas de maux précédents, et on réussit à s'y implanter. Et là, c'est le dernier point peut-être important à souligner sur cette capacité de la mouvance djihadiste aujourd'hui à entrer en résonance avec un certain nombre de griefs locaux, de combats qui peuvent être ici des revendications ethniques, là une souffrance d'une marginalisation de certaines communautés confessionnelle, d'autres pans sur des problématiques sociales ou économiques. Finalement, ils ont montré leur grande capacité d'adaptation et ils entrent en résonance donc avec ces problématiques locales, et ils soulignent les problèmes de gouvernance. Et derrière, ils révèlent finalement des problèmes où là, il y a une forme d'échec pas seulement des Occidentaux, mais de la communauté internationale et en priorité des gouvernants locaux à offrir quelque chose à leur population. Et donc c'est là où finalement il y a un constat d'échec, et plus qu'à l'échelle globale et du contre-terrorisme et des enjeux de sécurité, c'est l'échec à offrir dans tout un tas d'endroits finalement une alternative politique, un projet de société qui fasse que le djihadisme soit moins attractif qu'il ne l'est actuellement pour toute une partie des populations.
Vous écoutez RFI, Géopolitique.
Alors, Marc Ecker, l'Europe et singulièrement la France a payé un lourd tribut à cette guerre contre le terrorisme. Quels arguments pour expliquer l'acharnement de la mouvance djihadiste contre la France ?
Dans la propagande djihadiste, la France est présentée comme un pays en guerre contre l'islam. En guerre à la fois à l'extérieur, on a largement évoqué les interventions militaires, diplomatiques dans le monde musulman jusqu'à présent dans cette émission, mais aussi en guerre sur son sol. Mmh. Et là, tout le concept de laïcité instrumentalisé par les djihadistes est présenté comme de l'islamophobie institutionnalisée. Évidemment, là, il y a tout un travail à faire du côté des politiques, peut-être aussi de la société civile, pour expliquer ce que c'est que la laïcité et pour expliquer que la France n'est pas en guerre contre l'islam, mais est en guerre contre des groupes terroristes, des groupes djihadistes, qui font d'ailleurs l'essentiel de leur mort dans le monde musulman. Donc c'est vrai que la France est ciblée particulièrement, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le reste de l'Europe a aussi été beaucoup touché. À partir de 2015, on a eu une sorte de nouvel euroterrorisme, en référence à l'euroterrorisme des années 80, 70-80, qui là, à l'époque, était d'extrême gauche. En tout cas, il y a eu un sentiment de menace partagé par plusieurs pays européens. C'est pas la totalité de l'Union, parce que clairement, plus on va à l'Est, moins ce sentiment est partagé. Mais enfin, vous avez eu quand même beaucoup d'attentats dans des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et puis aussi dans des plus petits pays comme la Belgique, et même dans les pays nordiques, vous avez eu des attaques. Et donc, il y a eu ce sentiment vraiment d'une crise profonde au niveau de l'Union et de la nécessité de réagir avec des actions qui ont été prises par les États, mais aussi une volonté de meilleure coordination au niveau de l'Union européenne en tant que telle.
D'ailleurs, vous le dites, il n'y a plus de frontières entre la lutte contre le terrorisme sur le plan intérieur et celle sur les théâtres extérieurs. Marc Ecker.
Eh bien, la menace s'est transnationalisée, effectivement. On voit qu'il y a des passages du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne jusqu'à l'Europe. Et la réponse s'est aussi adaptée, avec notamment cette notion de continuum sécurité-défense qui s'est développée. Et on a vu, alors je ne sais pas si c'est une confusion des genres, mais enfin le fait est que en France, par exemple, les militaires sont intervenus sur le territoire national avec une opération intérieure qui est Sentinelle, et en parallèle, on a vu les forces de sécurité intérieure être musclées, être dotées d'un nouvel armement qui rappelle celui des armées, et donc on voit qu'effectivement, il y a eu la volonté de faire face à un adversaire qui a été terrorisé, pardon, qui a été théorisé, joli lapsus, comme une armée terroriste. Ce concept est discutable et critiquable, mais il montre bien que on n'avait plus affaire à des petits groupes terroristes posant quelques bombes, mais des groupes contrôlant des proto-États, ayant des sanctuaires et étant capables de projeter des forces à l'extérieur, comme ils l'ont fait par exemple le 13 novembre 2015.
En tout cas, on sent bien un effet boomerang hein, sur les choses quand on pense aux sociétés occidentales, avec des conséquences de ces 20 années de guerre et les Tenenbaum pour les sociétés occidentales qui vont être durables.
Bon, les sociétés occidentales sont particulièrement connectées, particulièrement ouvertes et donc sensibles effectivement à toutes ces transformations internationales, mais bon, elles sont pas les seules et de fait, aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, les gens savent très bien ce qui se passe aux États-Unis ou en Asie en même moment. On est dans ce monde globalisé, interconnecté, et donc où les idées ou aussi bien positives que négatives circulent beaucoup, et effectivement en Europe, on y est particulièrement exposé. Et puis il y a des tensions, il y a des crispations à l'intérieur de nos sociétés, et ici comme ailleurs, finalement les djihadistes ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à mettre le doigt sur un certain nombre de non-dits, de problèmes qu'on a pu avoir. Marc citait la question de la laïcité en France. Finalement, ils ont réussi à monter en épingle ce type de problématique pour les mettre en avant, même s'ils sont pas les seuls. Il faut pas, ça serait une erreur de lire ces débats qui sont sains à l'intérieur de la société française à l'aune uniquement de la lutte contre le terrorisme et de la menace djihadiste. C'est ce qu'ils espéreraient d'une certaine manière, mais force est de constater que le caractère spectaculaire, violent, fascinant d'une certaine manière de la violence terroriste joue un rôle important dans les débats de société et contribue à polariser considérablement le débat en le dramatisant, parce que ça veut dire que derrière vous avez des personnes qui ont été tuées, vous avez des attentats comme celui de l'assassinat de Samuel Paty qui marque les esprits et qui tente finalement à radicaliser les positions. Et encore une fois, on est dans ce jeu de la provocation sur réaction qui est à l'origine même de la dynamique du terrorisme.
Et vous poussez finalement le raisonnement plus loin encore en évoquant ces menaces sur la démocratie en Occident. Alors, en guise de conclusion, Marc Ecker, le reflux des Occidentaux, des théâtres et la volonté des responsables politiques de clore la guerre de 20 ans, est-ce que ça signifie diminution des raisons d'être du djihadisme? Et quels enseignements finalement retenir de ces 20 années de guerre?
Non, je crois que ça ne diminue pas la raison d'être du djihadisme, et c'est là qu'il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que la motivation des djihadistes est toujours là, ils ne sont pas prêts à rendre les armes. Clairement, les Occidentaux veulent passer à autre chose. La question, c'est est-ce qu'on va le pouvoir passer à autre chose? Parce que si les attentats perdurent, et en particulier s'il y a des attentats de grande ampleur, les Occidentaux seront bien obligés de faire face à la menace, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres menaces à côté. Et en fait, c'est pas parce que voilà, il y a la montée en puissance de la Chine ou d'autres enjeux que le djihadisme disparaît pour autant. Et il va falloir en fait faire face à tous ces défis en même temps.
Il était le même baume, un complément de conclusion.
Non, c'est exactement ça. Les menaces ne se succèdent pas, elles ne se remplacent pas, elles s'accumulent. Et d'ailleurs, elles se recomposent. Et le contre-terrorisme de demain, il sera probablement lié à la compétition de puissance à laquelle on assiste aujourd'hui. Il va falloir voir, par exemple, quand la Chine fait de la coopération antiterroriste en Afrique. Elle lutte contre le terrorisme, mais elle s'impose aussi, elle développe ses liens. Et on peut avoir... voilà, une recomposition, un mélange entre des problématiques qui sont celles de la compétition entre des grands États, de la grande géopolitique des puissances, et puis celles de la lutte contre le terrorisme ou des enjeux transnationaux, de la même manière qu'on peut l'avoir dans le champ environnemental, sanitaire ou d'autres.
La Chine bien présente également en Afghanistan, on l'a pas évoqué, la Chine qui en tout cas a largement profité de cette concentration américaine et occidentale dans cette lutte contre le terrorisme ces 20 dernières années. Merci Elie Tenenbaum, je rappelle que vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, Marc Ecker, directeur de la recherche et de la valorisation à l'IFRI, également rédacteur en chef de la revue Politique étrangère, et votre ouvrage pour lequel vous étiez présent aujourd'hui dans cette émission, La guerre de 20 ans, djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle, qui vient de paraître chez Robert Laffont. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Yael Co et Nathalie Laporte. Pas de géopolitique demain pour cause de football. À samedi prochain.